Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer. Et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur les places de stationnement. Plus de 60% des Français vont chaque matin à leur travail en voiture. L'enjeu est majeur dans les grandes villes où trouver une place devient de plus en plus compliqué. Heureusement, grâce à des applications, c'est en train de changer. Réserver sa place de parking à distance, identifier sur une carte les places libres. Vous allez voir que là aussi, dans ce domaine, les Français innovent. Elle a 120 ans et elle a failli ne plus jamais être française. Elle fabrique des porte-monnaies et des sacs. C'est Le Tanneur et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Vous êtes entrepreneur et vous en avez assez, des problèmes d'impayés. G-Collecte peut vous aider et c'est la solution. Et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous. Tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Aujourd'hui, gros plan sur les places de stationnement. Trouver une place de parking dans les grandes villes peut parfois prendre beaucoup de temps et en décourager plus d'un. Et heureusement, il existe des solutions grâce à des innovations françaises. Marlène, on attend toutes les questions.
Et oui, les questions que vous pouvez poser à nos invités aujourd'hui. Vous pouvez aussi apporter un témoignage, commenter. 3921, c'est le numéro du standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Il suffit de nous laisser un petit message, vos coordonnées et on vous rappelle. Et puis on peut aussi laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, Sébastien Guyot, de la rédaction d'Europe 1, qui est resté avec nous pour nous éclairer pendant toute l'émission.
Je vais essayer.
J'en suis sûre. Notre coach du jour, Guillaume Kérou, le président fondateur du Club des Entrepreneurs. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous. Alors quand on recherche une place pour se garer, l'idéal c'est de trouver rapidement et le moins cher possible. Pourtant, la simple recherche d'une place, ça peut être une perte de temps de l'ordre de 15 minutes. Ainsi, avec One Park, on peut se garer en ville en 3 clics. Bonjour David Vandenborne.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de One Park. Vous avez créé One Park en 2014. Vous avez levé une trentaine de millions d'euros en 2 ans. Et votre ambition, c'est d'apporter une solution très concrète, et on va le voir, c'est très concret, aux automobilistes qui cherchent une place de parking. Comment vous vous y êtes pris ?
Mais tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. En effet, One Park, c'est une start-up qu'on a lancée sur le marché français il y a de ça bientôt 5 ans. Avec mon associé Gilles. On l'a créé pour apporter une réponse concrète à la problématique du stationnement et permettre aux automobilistes de se garer simplement en quelques clics et au meilleur prix.
Alors One Park, c'est une plateforme en ligne. Et alors, comment ça marche ? On peut comparer et réserver ses places ?
Absolument. One Park, c'est une plateforme qui est accessible via un site internet, via la version mobile de ce site internet et également via des applications natives disponibles sur iOS et Android et qui vont permettre aux automobilistes de comparer et réserver leur place de parking soit à l'avance, soit à la dernière minute, à travers nos plateformes web et mobiles.
Il paye directement sur votre plateforme ?
Absolument. Toute l'expérience est totalement intégrée. Ils ont accès à un inventaire de plus de 100 000 places de parking qui sont actuellement disponibles dans 8 pays en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et plus récemment
donc
au Portugal.
Donc vous sortez de France pour les places de parking ?
Absolument. On a initialisé notre développement international au printemps 2017 avec l'ouverture du marché suisse, belge et espagnol. Puis en 2018 avec l'ouverture des Pays-Bas, de l'Italie et de l'Allemagne. Et plus récemment au début de l'année 2019, à travers la dernière levée de fonds qu'on a réalisée auprès de différents opérateurs industriels que sont le groupe Accor, un des leaders mondiaux de l'industrie hôtelière, le groupe Aéroport de Paris, un des leaders mondiaux de la gestion d'infrastructures aéroportuaires, et le groupe Keolis SNCF.
Alors justement, Accor, Aéroport de Paris, ça veut dire que sur votre plateforme, on peut réserver une place qui est rarement utilisée dans le parking d'un hôtel.
C'est exactement ça. On travaille avec 2 typologies de parking bien distinctes. D'une part, des parkings publics, dans lesquels je suis à peu près certain que chacun d'entre nous ici a déjà été l'occasion d'aller se garer, situé en centre-ville ou à proximité d'une gare ou d'un aéroport, et également des parkings privés, essentiellement d'hôtels. Et c'est là qu'est notre grande innovation, de permettre aux automobilistes, à tout à chacun, de pouvoir accéder à cette nouvelle offre de stationnement à travers la technologie de contrôle d'accès qu'on met à disposition des hôtels, pour résorber l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché et faire exploser une nouvelle offre et amener de nouvelles capacités pour satisfaire les besoins des automobilistes au quotidien.
Vous faites le booking du parking.
C'est exactement ça.
Sébastien, je me tourne vers vous. Comment sont réparties les places de stationnement?
Alors en France, c'est environ moitié-moitié hein, entre la voirie et hors voirie. 52% pour la voirie, 48% pour ce qui n'est pas de la voirie. Les emplacements appartiennent essentiellement aux autorités publiques, hein, très largement, 85%. Mais en revanche, elles sont gérées par des prestataires privés. Il y a 84% précisément de concessions en France.
Sébastien Quéroux, que dites-vous sur One Park?
Moi, la question que j'ai envie de poser, beaucoup d'auditeurs peuvent se poser la question, comment est-ce qu'on peut arriver à fonder une application qui se développe en Europe sur le sujet des parkings alors qu'on n'a pas le permis?
C'est une très bonne question, parce que bien que je n'ai pas moi-même mon permis, j'ai été confronté à plusieurs reprises à la problématique du stationnement à travers...
En tant que passager,
absolument.
Donc l'énervement,
et l'énervement subi par le conducteur également qui déteint sur nous. Et après
vous passez une mauvaise journée.
Exactement. Donc, j'y suis également indirectement confronté, bien que moi-même, dans ma vie au quotidien, je n'y sois que peu confronté. Et j'ai eu envie de trouver une solution concrète, en tout cas d'essayer d'en apporter une autant que faire se peut au marché. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on bénéficie de technologies de l'information qui sont juste largement avancées pour permettre à l'offre et à la demande d'être connectées en temps réel sur une marketplace, sur une place de marché comme One Park, on se dit qu'on bénéficie aujourd'hui des moyens technologiques, humains, pour pouvoir développer ce type d'offre et tout simplement connecter les parkings et les automobilistes en temps réel.
C'est bien comme ça rassure les auditeurs qui ont envie de créer quelque chose alors qu'ils n'ont pas du tout l'expertise.
Oui, c'est tout à fait possible. Bravo. C'est ce qu'on voit tous les jours ici. Donc finalement, vous exploitez des gisements de parking inutilisés. Comment vous les avez trouvés?
Alors, on a une offre qui est double, qui est à la fois composée de parkings publics, qui là sont des parkings dans lesquels vous pouvez tous vous garer et qui vont nous utiliser comme une plateforme de distribution pour maximiser leur taux d'occupation.
Ce sera moins cher si je passe par vous?
En général, ce sera moins cher, absolument. On négocie des prix avec eux de telle sorte que nos utilisateurs, nos automobilistes puissent bénéficier d'un avantage en passant par One Park. Cet avantage, il est multiple. C'est naturellement la garantie de la place, la sécurisation du stationnement, l'accès et le paiement via la plateforme et évidemment le fait de pouvoir bénéficier d'une réduction tarifaire que les tarifs sont enclins à faire parce qu'ils font simplement du yield management.
C'est-à-dire ?
Alors permettez-moi cet anglicisme. Il s'inspire de ce qui a été fait sur les 15-20 dernières années dans toutes les grandes...
De tout savoir.
Je vais tout vous expliquer. Il s'inspire de ce qui a été fait dans toutes les industries à structure de coûts fixes, dans l'hôtellerie, dans l'aérien, dans le ferroviaire. Et toutes ces industries ont vu des structures de yield management, c'est-à-dire de prix qui vont varier en temps réel en fonction de l'offre et de la demande, de telle sorte que l'opérateur qui est derrière, en général sous forme de concession, puisse maximiser la valeur créée par l'actif.
Donc, c'est-à-dire, c'est en temps réel, on n'a pas besoin forcément de réserver ?
Si vous avez besoin de réserver, c'est-à-dire que quand les parkings vont être vides, ils vont un peu baisser leur prix pour faire en sorte de les remplir plus rapidement. Et au contraire, quand ils vont être relativement pleins, ils vont moins être enclins à pratiquer des promotions puisque le jeu en vaut moins la chandelle pour eux à ce moment-là. Donc ça, c'est à peu près 50% de notre offre. Et les 50% restants, c'est ceux que vous mentionniez précédemment, à savoir ces fameux parkings privés, essentiellement d'hôtels, mais aussi de sièges sociaux d'entreprise, de bailleurs sociaux, de bailleurs du tertiaire, qui là étaient inaccessibles au grand public et qui, à travers notre solution, vont s'ouvrir et générer des revenus additionnels.
Quand vous dites « en général, c'est moins cher grâce à nous », ça veut dire que ça peut aussi être plus cher, ça dépend de quoi ?
C'est pas plus cher. Au pire, ce sera au même prix que le prix pratiqué par le parking, de telle sorte qu'il y ait quand même des conditions de parité tarifaire qui soient respectées. Mais ça va dépendre tout simplement du taux d'occupation et de la volonté du parc de réduire ou pas ses prix. Nous, on intervient vraiment, c'est exactement ce que vous mentionniez précédemment, en tant que distributeur. On est un booking.com et on a vocation à donner à tous ces parkings de la visibilité, à leur permettre d'adresser une demande additionnelle.
Pour qu'ils soient davantage remplis.
Absolument. Et à faire connaître leurs offres aux automobilistes.
On reste ensemble, on continue à parler de la révolution dans les places de stationnement.
Il est 13h10. Europe 1, Elisabeth Assayag.
Décongestionner les centres-villes et permettre aux centres commerciaux de gérer les flux, c'est la solution de Parking Map. C'est ça, la France qui bouge.
Jusqu'à 14h, la France bouge. Avec vous, Elisabeth Assayag, on s'intéresse aujourd'hui aux places de parking. Trouver une place de stationnement relève parfois du parcours du combattant. Vous avez peut-être d'ailleurs des anecdotes à nous raconter à ce sujet. Est-ce que vous avez des solutions? Réagissez aussi à ce que disent nos invités aujourd'hui au 3921. C'est le standard d'Europe 1. Et puis, hashtag Europe 1 sur Twitter si vous souhaitez aussi publier un petit commentaire.
Imaginez un observatoire du stationnement. très utile pour un maire ou un patron de centre commercial. Un diagnostic complet qui permet de prendre des décisions pour justement adapter le stationnement au flux réel des voitures. Bonjour Henri Delaporte.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Parking Map. Alors, dans certains centres-villes, il y a des parkings où les automobilistes viennent. Ils repartent au bout de 10 minutes. C'est pour aller acheter une baguette, poster un courrier et ils reprennent leur voiture. Et dans ce même parking, vous avez des voitures qui restent toute la journée. Et c'est là où justement vous pouvez intervenir, c'est-à-dire vous allez pouvoir identifier les besoins des uns et des autres au sein d'un même parking. C'est ça ?
Tout à fait. Parking Map propose un agrégateur de données et en fait on donne à la collectivité, au gestionnaire de parking, ici on parle d'un centre-ville donc c'est une collectivité, l'information de tout son stationnement. Quel élu ne s'est jamais retrouvé devant un administré ou devant un commerçant qui lui disait qu'il n'y a pas de rotation devant son magasin et l'élu n'avait aucune information à part ce qu'il a vu depuis ce matin et en général on n'a pas toujours la bonne information. Aujourd'hui avec Parking Map, l'élu il aura des informations très précise, par exemple le nombre de voitures qu'il y a eu depuis ce matin sur cette place-là, ou le temps moyen de stationnement, qui sont des éléments qui sont très intéressants dans un centre-ville. Le gouvernement a mis un plan, l'action cœur de ville, pour décongestionner les villes, le stationnement fait partie de ce projet-là, puisque de nombreuses voitures sont des voitures ventouses et donc elles restent sur des zones bleues qui sont
en
général
des voitures ventouses.
Des voitures ventouses, ce sont des voitures qui restent plus longtemps qu'autorisées. Et dans certaines villes, vous avez des zones bleues qui sont en fait des zones où vous avez un stationnement qui est autorisé pour 15 minutes, une demi-heure, une heure. En général, c'est là où on a besoin d'une forte rotation parce qu'une rue commerçante. Et une voiture qui reste 12 heures sur cette place-là va bloquer potentiellement 12 voitures et donc potentiellement 12 acheteurs chez les commerçants.
Donc vous allez établir un diagnostic et faire aussi des prescriptions. Donc cette place-là qui est toujours occupée pendant 12 heures, on va peut-être la modifier. Celle d'à côté, on va faire par exemple 30 minutes gratuites pour ceux
tout
qui passent. Comment vous faites ?
Le but, voilà, c'est de faire une analyse, de donner à l'élu, au stationnement, à la mairie ou au gestionnaire, une information pertinente de la réelle utilisation de son stationnement pour qu'il puisse y avoir une adaptation de la politique de stationnement de la ville et donc avoir un stationnement qui est pleinement adapté aux besoins des automobilistes.
Et ça a déjà eu des effets dans certaines villes ?
Alors aujourd'hui, par exemple, on déploie la ville de Soissons qui a revu entièrement sa politique de stationnement pour animer les rues commerçantes et au contraire faire du stationnement zone bleue aux alentours et avoir des réseaux de transport en commun qui permettent de rentrer dans le centre-ville. Et donc ça va permettre de contrôler le bon respect du stationnement et puis deux, de pouvoir ajuster s'il y aura besoin d'ajuster sur certaines places.
D'accord.
Donc c'est une façon de rendre les centres-villes plus attractifs, hein, c'est ça ?
Entre autres,
d'arrêter d'aller systématiquement dans les grands centres commerciaux où là on sait qu'on pourra se garer et il y aura moins de problèmes que de se garer dans un centre-ville.
Tout à fait.
C'est un des objectifs.
C'est un des objectifs, c'est de faciliter le fait de trouver sa place. Et vous parliez des centres commerciaux.
Alors justement, comment vous faites avec les centres commerciaux ?
Eh bien, les centres commerciaux, c'est déjà de détecter la disponibilité en temps réel des places, déjà pour orienter les automobilistes qui veulent aller dans le centre commercial vers les places libres. On a tous tourné sur un parking de centre commercial pour trouver une place. Et le temps que l'on perd à chercher une place sur le parking du centre commercial, c'est du temps que l'on ne passera pas dans la galerie marchande ou dans le centre commercial en
à
tant
consommer.
Que tel. À consommer.
C'est quand même ça qui est derrière aussi.
C'est comme ça qui est aussi derrière pour le directeur du centre.
Vous avez un pourcentage ou quoi après avec les magasins ?
J'ai aucun pourcentage.
Mais, ce sera la prochaine étape.
Mais aussi, on a vu par exemple en région Île-de-France, quand vous avez un centre commercial qui est à côté d'une gare RER, et ben vous avez des personnes qui viennent se garer sur le parking du centre commercial, puisque c'est gratuit, toute la journée. Donc, ils vont aussi bloquer des places pour des potentiels consommateurs du centre commercial. Et ça permet au directeur du centre de voir les places qui sont, entre guillemets, utilisées frauduleusement.
Guillaume Quiroux.
Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est que ça existe depuis 2012. Déjà, premièrement, le modèle économique. Est-ce que savoir comment ça fonctionne exactement ? Et deuxième point, peut-être levée de fonds. J'ai pas d'infos sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des projets sur ce point précis ?
Alors oui, tout à fait. La société existe depuis 2012. Je l'ai rachetée en 2015. À l'origine, c'était un distributeur de capteurs de détection, justement, un capteur italien. Quand on l'a racheté, on a fait ce changement stratégique pour ne faire qu'une plateforme digitale.
Vous avez pivoté.
Voilà,
donc.
On a fait un pivot, le fameux
capteur,
pivot.
Capteur, c'est juste, cette place est libre, c'est en rouge, cette place est occupée, c'est en vert.
Alors, vous avez différentes technologies de capteurs aujourd'hui. Vous avez ces capteurs-là qu'on voit rouge ou vert. Vous en avez qui sont au sol, d'autres où il y a de l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui, on utilise tous les capteurs qui sont sur le marché. On ne produit aucun capteur. Nous, on ne fait que développer la plateforme agrégation de données. Et puis, pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous, on n'a pas levé une trentaine de millions. Mais effectivement, en tant que petite structure, on est toujours à l'affût de savoir quand est-ce qu'il faut lever, parce que lever, c'est bien beau, mais ça demande du temps et puis il faut le faire au bon moment. Donc voilà, donc ça devrait arriver un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur le sujet.
Vous êtes combien de salariés ?
Aujourd'hui, on est 14 salariés.
Et ce sont quel type de profil ?
Alors, on a énormément de développeurs informatiques, bien entendu, puisqu'on développe un site internet, un logiciel qui est fourni sous forme web et mobile pour les usagers. Et puis après, on a des équipes commerciales pour pouvoir distribuer cette solution, puisqu'aujourd'hui, on va avoir toutes les mairies, tous les distributeurs aussi que l'on a, qui peuvent être des SFR ou des Vinci, qui, eux, vont régulièrement voir les villes et apportent des nouveautés. Et puis après, il y a aussi toute la partie des centres commerciaux.
Vous avez reçu le prix de l'innovation du Salon des maires et des collectivités locales. La suite, c'est quoi ? C'est toutes les villes ? Vous allez essayer de les avoir ?
Effectivement, on a eu cette distinction lors du dernier Salon des maires de France qui, justement, valorisait notre produit qui était innovant, parce que le monde du stationnement, ça fait depuis plusieurs années qu'on essaye de le connecter. Mais aujourd'hui, ils ont estimé que notre solution était vraiment une solution innovante parce qu'elle répondait à un vrai besoin des gestionnaires. Après, on ne fera pas toutes les villes. C'est utopique de penser qu'on fera toutes les villes, puisque toutes les villes n'ont pas un problème de stationnement. N'ont pas un besoin réel.
Les grandes agglomérations.
Toutes les grandes agglomérations, oui. Après, par exemple, la mairie de pour le sujet de Paris, est-ce qu'on cartographiera les 140 000 places de la ville de Paris ? Je ne suis pas certain. Mais au moins d'avoir des grands ensembles et de pouvoir avoir une information. Et peut-être que là, le prédictif qu'on est en train de développer va pouvoir aider, puisqu'en prenant des zones idéales à Paris, on aura peut-être une information prédictive sur toute la ville plus tard.
On reste ensemble sur Europe 1 à parler des places de parking.
Il est 13h19.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Construire un parking en kit pour améliorer le stationnement, ça existe grâce à ParkUp. Restez avec nous, c'est ça la France qui bouge.
Vous nous écoutez depuis peut-être votre voiture, peut-être cherchez-vous à vous garer, tendez bien l'oreille. Depuis 13h, on s'intéresse au monde du stationnement, aux places de parking. C'est la France bouge avec vous, Elisabeth Assayag.
Son patron dit que c'est tout à fait révolutionnaire et il a raison. Imaginez un parking de stationnement en kit modulable et démontable en seulement quelques jours. Bonjour Elis Madja.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le président de Nextensia et vous avez créé ParkUp. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Merci. Alors votre concept, il est totalement inédit. Vous avez mis, je crois, 4 ans de recherche et développement pour arriver à créer un parking en kit.
En effet.
Pas de fondation.
Exactement. Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que ParkUp, c'est un système constructif qui permet de construire des parkings en élévation, ces fameux parkings à étages qu'on trouve dans des centres commerciaux, des aéroports, des gares. Mais c'est un système qui n'est pas tout à fait comme les autres. Pourquoi ? Déjà, il est totalement modulaire, c'est-à-dire que on fabrique des ensembles qui sont tels des Lego. Alors, c'est un Lego de 14 tonnes et qui fait 15 mètres de long. Donc, ce n'est pas petit Lego.
Faut s'y connaître en Lego. Là.
Mais ça nous permet, cette approche modulaire, de complètement préconstruire le parking dans une approche, dans une logique de production de série et d'avoir simplement à assembler sur un site client pour monter des étages de stationnement en seulement quelques jours, là où les techniques de construction courante nécessitent des mois de chantier.
C'est la force de votre concept, c'est le temps.
Et le deuxième aspect, effectivement, au-delà du temps, c'est son caractère démontable, vous l'avez souligné, qui permet pour la première fois sur un ouvrage de stationnement un usage temporaire. Donc nous créons avec ParkUp le premier marché de la location de parking aérien en ouvrage pour des durées et des usages déterminé.
Mais ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que vous ne vous déplacez pas, vous ne construisez pas le parking chez le client, mais vous avez vos propres usines. Et c'est vous qui allez apporter le parking.
C'est tout à fait exact. La logique de ce produit et de ce système, c'est qu'on ne fait plus un chantier sur le site du client, on réalise un chantier dans une usine. Et il ne reste plus qu'une seule opération de pose. Vous l'avez dit, hein, c'est sans fondation. C'est-à-dire qu'on vient poser des jeux de poteaux sur des parkings déjà existants et on vient ensuite poser nos tabliers, hein, qui sont ces fameux modules. Les tabliers, c'est les plateformes de roulage des automobiles. On vient poser ces tabliers tels des Legos au rythme d'une centaine de nouvelles places par semaine.
Le kit, c'est quel matériel ?
Alors, c'est un principe de construction mixte. Hein. La construction mixte, c'est l'adjonction de différents matériaux qu'on va solidariser entre eux. En l'occurrence, il s'agit de chevêtres en acier dans lesquels on va couler du béton. On le fait pour des raisons très simples. C'est lié à la réglementation française.
Et ça résiste au feu.
Exactement. Ah, c'est le sujet de la stabilité au feu qui nécessite le recours à ce type de construction, à ce type de procédé constructif, mais qui, pour la première fois, sont démontables. Et permettre d'être monté en quelques jours et surtout d'être utilisé de façon temporaire.
Vous faites tout ça tout seul ou vous avez dû vous adosser à un groupe qui avait un savoir-faire dans les parkings?
Alors en réalité, seul, c'est difficile.
Parkup, hein, je veux dire.
Nous avons même une maison mère. Il s'agit du groupe Briand, qui est un groupe réputé en matière de construction dans la charpente métallique, dans l'ossature bois, dans le béton, et qui du reste est devenu en quelques années le leader en France de la construction de parkings aériens en ossature métallique. Et donc Parkup, finalement, c'est un aboutissement, c'est le condensé de savoir-faire et d'ingénierie du groupe Briand en matière de construction de parkings aériens, avec une avance de phase également, on va dire, sur une réflexion de ce groupe sur les usages des bâtiments, sur la gestion de la fin de vie, par exemple, d'un bâtiment. Autant d'enjeux qui sont en ligne avec l'approche environnementale que doit avoir aujourd'hui la construction.
Que dit notre coach Guillaume Quairaut ?
Moi, j'ai deux questions. Peut-être une question personnelle, une question peut-être après plus générale. Première question, ça appartient à un groupe, donc on l'a dit, un groupe familial qui a été créé dans l'après-guerre. En quoi la complémentarité entre votre start-up finalement et ce groupe familial vous permet aujourd'hui d'accélérer votre business et comment ça se fonctionne, ce duo?
Alors, ce duo crée une véritable synergie et qui est absolument importante dans le développement de ces métiers. Groupe Briand apporte un savoir-faire, comme je l'ai dit, une ingénierie dans le domaine de la conception de parcs de stationnement. Et donc, on bénéficie de ce savoir-faire. Apporte également une capacité industrielle parce qu'on ne déploie pas un projet comme Parkup, comme vous disiez, seul. Et Nextensia, avec les équipes qu'il a regroupées, a apporté un savoir-faire unique parce que finalement, ce métier, ce n'est plus un métier de la construction. C'est quasiment un métier du bien d'équipement. On apporte une approche mobilière, en fait, à la construction, puisque ça devient un objet qu'on peut déplacer, qui est amovible. Donc, ce sont des métiers de logisticiens que nous avons chez nous, des métiers de production de série. On a ouvert notre premier site industriel au mois de décembre. C'est un site de 62 000 m² où l'on fabrique des modules de stationnement en série. Et c'est un métier également de développement commercial, puisque l'approche finalement locative est une approche qui nécessite d'apporter un format contractuel différent aux clients.
Quand vous dites vous le déplacez tel quel ou il faut le démonter à chaque fois pour le remonter?
Et non, c'est la grande force des modules Parkup, on les déplace tel quel. Il y a une vidéo qui est accessible sur YouTube du montage d'un Parkup. Vous tapez Parkup sur Google, vous tombez sur la vidéo YouTube, vous voyez ces poteaux qu'on pose au sol sans aucune fondation. On a calculé, c'est homologué pour pouvoir être posé sans fondation. Et on vient porter, on a même développé des...
Mais
des,
sur un parking déjà existant, sur un pas parking sur un terrain vierge existant.
On peut le faire sur un terrain vierge, dès lors qu'on y coule un enrobé qui permet de faire les places de stationnement du rez-de-chaussée. Mais effectivement, l'idée est d'utiliser des parcs de stationnement de surface déjà existants. Je finis sur ma réponse. On a développé des outils de manutention spécifiques, et notamment une pince, un palonnier qui mesure 15 mètres de long, qui vient porter ces blocs de 14 tonnes. Alors, pour l'anecdote, nos équipes ont appelé ce palonnier le T-Rex, puisque c'est une mâchoire qui vient porter ces modules. Et on a développé donc des savoir-faire de logistique adaptés à cette façon de construire.
La suite, ce sera quoi pour Parkup ? Je crois que vous avez des envies de Jeux Olympiques de Paris.
Pourquoi pas ? Les applications sont très nombreuses.
Chantier du Grand Paris.
Pourquoi pas aussi. S'ils nous écoutent, on les recevra avec grand plaisir. On ira même les voir, mais les applications sont très nombreuses. Les industriels, hein, sur les grands parkings de sites industriels qui peuvent manquer de place, soit temporairement, soit de façon définitive, mais avec un enjeu de délai. Prenons un exemple même, une clinique. Une clinique, et on en connaît tous des cliniques comme ça, en zone périurbaine, qui a 200 places de parking en surface. Et à qui, en fait, il en manque 200, parce qu'à 9h du matin, le parking est plein. En fait, une clinique, si elle n'a pas de foncier disponible, la seule solution, c'est de monter en étage.
Et sauf
que construire un parking en étage dans une clinique, ça veut dire que c'est 18 mois de chantier. Quand vous avez un centre de chimiothérapie, une unité de dialyse, où il y a des gens qui viennent tous les jours, c'est absolument impensable de condamner les 200 places de parking pendant toute cette durée de chantier. Mmh. Avec Parkup, on sait construire aujourd'hui des extensions de stationnement en étage en quelques jours pendant les vacances d'été.
On reste ensemble, on continue à parler des places de stationnement et de cette révolution.
Il est 13h29.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend. Vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite.
On parle des places de parking sur Europe 1. Trouver une place de stationnement dans les grandes villes peut décourager. Il y a des solutions. Les Français innovent dans ce domaine. Vous écoutez La France Bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités.
Et nous sommes toujours avec le coach du jour, Guillaume Quérou, le président fondateur du Club des Entrepreneurs, Sébastien Guyot, de la rédaction d'Europe 1. Et avec nous, pour en parler, David Vandenborne, le cofondateur de One Park, qui permet de louer une place de parking directement depuis son smartphone. Henri Delaporte, le directeur général de Parking Map. Et Elis Madja, le créateur de Parkup, des parkings en kit démontables et reconstructibles. Marlène, je crois qu'on a reçu quelques petits questions ou témoignages d'auditeurs.
Oui, j'ai un message de Marc qui nous a laissé un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il nous dit ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir associer la réservation de places de parking avec des rendez-vous précis comme ceux du coiffeur ou du médecin. Vous y réfléchissez ?
C'est pas mal ça.
Oui, absolument. C'est des axes sur lesquels on commence à travailler. Faire en sorte d'intégrer le parking dans une plateforme de mobilité globale qui peut se connecter avec différents services de telle sorte qu'on puisse réserver son billet de train et son parking, son billet d'avion et son parking, sa place chez le coiffeur et son parking, pourquoi pas demain son rendez-vous chez le médecin et son parking. Enfin, intégrer globalement le parking dans une chaîne de mobilité plus vaste qui permet que le parking devienne un usage associé à quelque chose d'autre.
Donc ça peut passer par un partenariat avec un Doctolib par exemple, ou avec une chaîne de salons de coiffure.
Absolument.
C'est une idée comme ouais, une autre.
Complètement.
Justement, Sébastien, concernant les tarifs de parking, qui fixe les tarifs du stationnement ?
Alors, depuis janvier 2018, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est la révolution. Hein. Vous avez plus votre papillon vert sur votre pare-brise.
On s'y perd complètement.
Eh oui. Donc, il n'y a plus un tarif unique comme il y avait avant, 17 euros. Ce sont les villes donc, qui fixent les forfaits. Donc, ça peut varier hein, de 17 euros, par exemple, à Caen, 60 euros
donc,
à Lyon.
Ça, c'est dans les villes ?
Dans les villes et à Paris, ça dépend des arrondissements, jusqu'à 50 euros. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, depuis le mois d'avril, depuis le début du mois, là, à Besançon, suite au mouvement des Gilets jaunes, les commerçants étaient vent debout, remontés. Et donc, la mairie a décidé que le stationnement n'était qu'à 1 euro désormais, tous les samedis. Et ça va courir jusqu'au 13 juillet prochain.
Alors, on voit tous autour de nous beaucoup, de plus en plus de vélos, de trottinettes. Pensez-vous qu'il y aura toujours de la place pour les places de parking dans des dizaines d'années ?
La question, elle a été posée...
Henri Delaporte.
La question, elle a été posée par la mairie de Paris qui... avait d'ailleurs voulu mettre un péage comme à Londres il y a quelque temps. Il disait qu'aujourd'hui, il voulait sortir toutes les voitures de la ville. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il resterait toujours des voitures. On en a perdu. On a perdu les voitures de Bolloré. Mais il faut savoir qu'on les a perdues, mais on va récupérer à près de 5000 voitures en free-floating, entre celles de Ada, entre celles de Peugeot, entre celles des autres marques qui vont arriver, on va avoir plus de voitures que les Autolib. Donc, il va toujours rester des voitures. Il va falloir les garer à un endroit. Il y aura, dans les grandes villes, on aura des voitures. La, la, La voiture, le fait de se stationner n'est plus une fin en soi dans le trajet. Aujourd'hui, on va venir se garer dans un parking relais, par exemple, autour d'une gare de RER. On va prendre son RER, on va arriver dans Paris. Dans Paris, on va prendre une trottinette, on va prendre une voiture en free-floating et on va arriver à sa destination finale.
Donc on aura
finale.
Plusieurs modes de transport et pas un seul, pas seulement la voiture. On aura la voiture, le vélo, la trottinette.
Ouais, on le voit aujourd'hui qu'il y a un enchaînement de modes de transport, mais la voiture, elle restera dans les villes. De toute façon, il y aura toujours, par exemple, des camions de livraison. Donc, dans une ville, on aura toujours des véhicules à garer. Et à Paris, par exemple, à Paris, la grosse question, c'est est-ce que les places de livraison sont adaptées aux livraisons? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Est-ce qu'elles sont au bon endroit? Est-ce qu'on peut leur trouver une autre vocation après 10h du matin quand il n'y a plus de livraison?
Élise Madja, je crois que vous vouliez répondre à cette question.
Oui, parce que nos études ont montré, et en tout cas ont permis d'établir deux constats. Le premier, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de véhicules immatriculés en France qu'aujourd'hui. Et tous les ans, il y en a encore plus. Bon, ça, c'est un état de fait. Après, on ne sait pas comment cette situation va évoluer. Mais justement, ce manque de prévisibilité milite en faveur de la construction d'ouvrages de stationnement qui sont réversibles. Il faut, et c'est le pari et c'est la conviction de la société que je dirige et des équipes qui nous ont rejoints, c'est de rendre la construction réversible pour qu'on n'ait plus à gérer des espèces de verrues dans les paysages qui sont d'anciens parcs de stationnement dont on ne sait plus quoi faire, malgré des initiatives de mutabilité des bâtiments, mais en fait ne répondent jamais véritablement aux besoins qu'on veut faire du futur ouvrage. Et donc nous, on a forgé la conviction qu'il faut construire aujourd'hui de cette façon. Il faut construire des ouvrages qui peuvent permettre de rendre les terrains dans leur état d'origine pour pouvoir demain y faire autre chose si jamais la voiture disparaît ou si jamais en tout cas son impact s'amoindrit.
Guillaume Caroux.
Ça rejoint ma deuxième question que je n'ai pas posée tout à l'heure sur effectivement ce sujet du stationnement. En quoi ça nous interroge effectivement sur la ville durable, la ville de demain ?
En effet, le simple fait de concevoir un ouvrage, un bâtiment, quel qu'il soit, ça peut être un ouvrage de stationnement, mais Nextensia fait aussi d'autres types de bâtiments de façon réversible, notamment des bâtiments industriels. En fait, cette façon même de penser l'ouvrage est une façon qui s'aligne avec le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable, somme toute, en définition ? C'est accompagner le développement d'une activité humaine en étant capable de revenir à l'état d'origine. C'est-à-dire qu'on n'a ni gaspillé ou ni créé un impact environnemental trop important. Eh bien, de construire des ouvrages qui permettent de restituer les terrains en état initial, c'est complètement aligné avec le développement durable. C'est du développement durable.
En tout cas, merci à vous trois d'être venus en parler sur Europe 1. Marlène, il y a un dernier tweet, me disait Thomas.
Oui, Olivier, qui nous dit « Moi, je me suis garée en écoutant La France qui bouge. »
Où s'est-il garé
sur Europe 1, on ne sait pas vraiment. Avec Elisabeth Assayac, c'est drôlement bien. Émission bien rythmée, innovante et passionnée. Cette émission a du talent.
Merci à vous. Merci Olivier.
Merci.
Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayac.
Tout commence il y a 120 ans par un petit porte-monnaie sans couture. C'est une maison qui a failli ne plus être française et pourtant, elle est toujours là, elle est en train d'être relancée. C'est Le Tanneur et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
Et vous écoutez La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Elisabeth Assayag, on va s'intéresser maintenant à une entreprise qui va bien.
Oui, parce que c'est une entreprise qui était sur le point d'être liquidée et pourtant... elle est toujours là. Sa réputation, c'est son petit porte-monnaie sans fil et sans fermeture éclair. Bonjour Éric Délé.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du groupe Tholomé qui a repris Le Tanneur il y a un an. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, j'ai précisé qui a repris Le Tanneur il y a un an parce que c'était pas gagné de reprendre une entreprise née en 1898 et qui était vraiment sur le point de mourir.
Qui était une entreprise forte, une marque forte et qui était effectivement... en état d'affaiblissement et avancé.
Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Le Tanneur, ce sont ses sacs et ses porte-monnaies, notamment son petit porte-monnaie sans fil, épuré, sans fermeture éclair, qui se plie un peu comme un origami. Il avait été dévoilé lors de l'exposition universelle de Paris. Aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Alors, comment avez-vous fait ?
En revenant aux sources et à la base de la marque, qui est une superbe marque, avec des très beaux produits, très avancés. on est revenu, on a développé, on a redéveloppé, remis au goût du jour ce petit portefeuille sans couture, créé il y a 120 ans. Et derrière, on a sorti un sac sans couture, une ligne de sacs sans couture qui vont être dans nos magasins.
Alors,
en ce moment.
Alors, je l'ai dit, l'entreprise est née en 1898. En 2011, elle était passée sous pavillon Qatari.
Oui.
Et là, les ventes s'étaient effondrées.
Oui. Ils avaient tenté un certain nombre de choses qui n'ont pas marché.
Ils étaient un peu éloignés de l'essence même de la marque, hein, c'est un peu ça.
Peut-être.
Et vous, entrepreneur, hein, parce que vous avez créé un groupe en 2004, donc mm-hmm. le groupe Ptolemée qui a récupéré le tanneur. Et vous, votre groupe, c'est on achète des petites sociétés, des sous-traitants liés à la maroquinerie. Hein, et petit à petit, comme ça, vous êtes agrandi.
On a démarré en rachetant, il y a 15 ans, une entreprise qui était, elle aussi, au bord de la liquidation et qui produisait de la petite maroquinerie pour une grande marque de luxe. On s'est développé, par chance, sur ce secteur, un petit peu à l'inverse du mouvement qui était de sortir de France. Et aujourd'hui, on a 7 usines en France.
Elles sont où ?
Alors, on en a dans la région de Valence, dans la région du Mans et dans le Pays Basque intérieur.
Et donc, voilà. vous avez tout relocalisé ?
Tout relocalisé, développé grâce, encore une fois, à ses clients. Puisque c'est une activité de sous-traitance, qui savent et qui ont su gérer une marque, un produit français et le faire racheter par le monde entier.
Alors, voilà. Comment vous y êtes pris ? Comment ça s'est passé ? Vous êtes allé voir, quand vous avez vu que le tanneur allait mal, vous êtes allé voir les Qataris, vous leur avez dit quoi ? Comment vous avez fait ?
En fait, je suis allé les voir. Eux-mêmes étaient embêtés, parce que c'est des gens de voir qu'ils
n'y arrivaient pas.
Et donc, en fait, on a procédé, alors techniquement par augmentation de capital, mais ça veut dire qu'ils sont restés actionnaires de la marque, et je gère la marque à leur côté en tant qu'actionnaire.
Alors, pour dépoussiérer la marque, vous avez donc relocalisé, vous avez relancé des modèles en particulier, vous avez fait quelque chose dans les produits ?
Oui, tout à fait. Alors, on a simplifié pour pouvoir recentrer les produits autour de produits un petit peu plus jeunes, au goût du jour, mais sans devenir un peu produit mode.
C'est-à-dire avec des couleurs, avec des matières en particulier ?
Avec des couleurs, des belles matières.
Comme...
On a des séries de cuir, des cuirs patinés, pas patinés, voilà. On se concentre sur les matières, sur les pièces métalliques fermoires, mais on ne fait pas de bling-bling ni de choses trop à la mode, parce que ce n'est pas notre ADN.
Donc,
voilà.
Un virage complet.
Un virage complet, un recentrage, voilà, comme le mot est à la mode, un recentrage sur les bases, sur les valeurs de la société, et également, et ça c'est l'apport qu'on a pu apporter par mon groupe, qui est... une exigence de qualité, de savoir-faire, toujours renforcée. Tous les jours, on cherche à renforcer ça.
Guillaume Quirot, notre coach, a quelques mots à vous dire.
Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est toujours un peu l'histoire du dirigeant. Et derrière, comment on en arrive effectivement à développer un groupe, à embaucher. J'ai vu que vous embauchiez 100 personnes hein, dans la Sarthe, je crois. Mm-hmm. Donc comment, en si peu de temps, comment on en arrive là ?
En croyant qu'effectivement, la qualité, les qualités humaines, si vous voulez, notre EBE à nous, c'est exigence, bienveillance, excellence.
C'est quoi EBE ?
EBE, excédent brut d'exploitation,
d'accord.
Ça c'est les financiers.
Okay.
Qui l'utilisent.
Non, nous on parle français.
et si vous voulez, c'est vraiment ça. On se recentre sur, on a des savoir-faire, et en particulier dans la maroquinerie, c'est un savoir-faire unique au monde.
Vous êtes recentré aussi sur la distribution, hein. Maintenant vous êtes
oui,
sur le web aussi, et
oui,
en boutique,
des
boutiques en nom propre ?
Des boutiques sont toutes en nom propre, absolument.
Et comment ça se passe avec les salariés ? Puisque quand on a affaire à un recentrage, à un changement, parfois il peut y avoir un peu de résistance... Ça les effraie pas ? Comment vous gérez ?
Ça les effraie, en plus. Mais je dirais que comme le client, ils sentent ce qui se passe de positif. Ils sentent que derrière, il ne s'agit pas de dire on n'a pas fermé, on n'a pas licencié. Ils sentent qu'il y a des changements qu'on leur demande de faire et qui sont dans le sens positif et qui vont permettre que la marque, ce qu'elle est en train de faire, se redynamise vraiment.
Et maintenant que tout est en France, les prix seront les mêmes ?
Les prix vont monter, pas trop.
Donc vous vous positionnez sur du luxe ?
On n'est pas dans le luxe. On est dans ce qu'on appelle le luxe accessible. Voilà, on est dans le haut de gamme par la manière dont on travaille, effectivement. Mais on va rester, je dirais, à des prix beaucoup plus raisonnables que dans le luxe.
Le luxe accessible, voilà. C'est ce que vous dites sur le Tanneur. Merci Éric Délé d'être venu nous présenter la folle histoire de le Tanneur, d'avoir su nous en parler. C'est l'entreprise qui va mieux. Merci.
Merci.
Il est 13h48.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Vous avez une petite entreprise et beaucoup d'impayés. Une plateforme existe pour vous aider. Elle s'appelle G-Collect. C'est la solution d'aujourd'hui dans La France qui bouge.
La France bouge se poursuit avec une solution, Elisabeth Assayag. Aujourd'hui, une plateforme qui facilite le recouvrement d'impayés pour les petites et moyennes entreprises.
Oui, plus de 40 entreprises chaque jour mettent la clé sous la porte à cause de factures impayées. Selon l'INSEE, 25% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. C'est pour aider les TPE et les PME qu'est née G-Collect. Sébastien.
Oui, une start-up parisienne fondée en 2017 par un ancien huissier. Bonjour Fabrice Develay.
Bonjour Sébastien.
Vous en aviez marre d'être mal accueilli en tant qu'huissier ?
Un petit peu.
Alors on estime donc à 300 000 le nombre d'emplois menacés par des retards de paiement. Vous vous adressez à ces TPE, à ces PME qui sont souvent démunis en cas d'impayé, à qui on s'adresse, à un avocat, à un juriste, à une société de recouvrement ou à un huissier par exemple. Vous, vous avez décidé finalement de servir d'intermédiaire.
Alors G-Collect est la première place de marché, la première plateforme d'intermédiation qui met en relation les professionnels qui ont des impayés avec les gens dont le métier est de recouvrer, d'encaisser ces factures impayées. Parce que derrière des factures impayées, je reprends les propos d'Elisabeth, où effectivement il y a des emplois, il y a des gens qui ont travaillé, et la préservation de l'emploi est aussi un des objectifs de G-Collect.
Alors comment fonctionne la plateforme numérique très concrètement ? Alors,
la plateforme fonctionne de la manière la plus simple, où effectivement G-Collect s'est basé sur l'ouverture des numéros Sirène en 2017. Aujourd'hui, pour avoir accès au service G-Collect, vous inscrivez votre numéro Sirène, vous vous abonnez à la plateforme. Il y a deux types d'abonnements, un abonnement gratuit, un abonnement payant. L'abonnement gratuit fonctionne de la même manière que celui qui est payant, sauf que l'honoraire perçu par G-Collect sur les flux encaissés est plus important.
Donc si c'est payant, c'est 249 euros par mois, c'est ça ?
249 euros par an.
Par an, pardon. Autant pour moi. Et vous récupérez combien
Alors, G-Collect, sur l'abonnement gratuit, récupère 5% du flux collecté. Mmh. Sur l'abonnement payant, 2,5%.
Alors, quand je vous demandais comment ça fonctionne, j'imagine que c'est à la base d'algorithmes spécifiques.
Alors, les deux innovations de G-Collect, c'est la raison pour laquelle nous avons été labellisés par le pôle de compétitivité mondiale de la finance, Finance Innovation, en décembre 2017. La première innovation, ce sont nos algorithmes qui calculent l'honoraire de recouvrement. Mmh. L'honoraire de recouvrement, c'est ce que réglera le client qui a sa facture impayée au prestataire qui a encaissé sa facture. Et ce n'est plus le prestataire qui impose, qui fixe cet honoraire. Cet honoraire est soumis au client qui l'accepte. À ce moment-là, les factures déposées sur la plateforme sont... Il y a une information qui est transmise à tous les huissiers, les sociétés de recouvrement. Il y a une facture de tel montant dans tel secteur géographique et dans telle typologie d'activité industrielle ou de service.
Alors vous vous présentez comme indépendant. En quoi vous êtes indépendant ? Alors
nous ne sommes affiliés à aucune banque, à aucun huissier, à aucune assurance, à aucune société de recouvrement. Nous sommes entièrement indépendants. Nous faisons le jeu, ce qu'on appelle dans l'univers des start-up, ce qu'on appelle, nous sommes customer-centric, nous nous intéressons
Au client.
Au customer, d'accord, on a compris. Vous évaluez aussi les professionnels du recouvrement, c'est quoi ? Vous êtes un peu une espèce de TripAdvisor ?
C'est la seconde innovation où effectivement la plateforme, les algorithmes évaluent la capacité à préserver la relation client par les huissiers de justice ou les sociétés de recouvrement, leur capacité à encaisser rapidement les fonds qui sont dus. Aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, le délai moyen entre le dépôt de la facture et son encaissement est de 53 jours.
Alors, on a juste une petite question sur Twitter de Julien Vernizo qui nous dit « Si je comprends bien, plus aucun intérêt à rechercher soi-même un huissier ou un prestataire pour mon recouvrement de facture. »
Alors, J-Collect, effectivement, fait ce travail pour le compte des TPE, des PME, où vous n'avez plus à vous intéresser au prix du marché. Souvent, il est...
Vous faites le travail.
On fait le travail, quelquefois opaque. Et surtout, on anime le réseau des encaisseurs.
Que dit notre coach, Guillaume Quérault ?
Non, c'est intéressant, effectivement, pour la TPE, l'artisan. Moi, ce qui m'intéresse, donc, on a parlé de deux innovations. Vous êtes sur un marché, je pense, concurrentiel. Il y avait pas mal d'acteurs sur ce marché, bien que...
Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans le recouvrement de créances. Nous ne faisons pas, nous, du recouvrement. Nous sommes une plateforme d'intermédiation.
Et donc, finalement, vous, quels peuvent être justement les leviers de croissance sur ce marché ?
Alors, les leviers de croissance sont multiples. La première, c'est dans la chaîne de valeur de J-Collect, c'est s'intéresser au recouvrement en soi. On va effectivement apporter des préconisations à nos prestataires, sur la qualité de leur recouvrement, sur leur rapidité, sur leur efficacité, leur efficience. Et ensuite, effectivement, nous sommes la brique de recouvrement qui intéresse certaines banques, parce qu'aujourd'hui, le recouvrement est entre guillemets inféodé ou à des huissiers ou à des sociétés de recouvrement qui délivrent leur savoir.
Et vous, vous payez comment ?
On a une commission sur les flux encaissés.
5% ou 2,5% 5% ou 2,5% d'abonnement.
Absolument.
Gratuit ou pas gratuit.
Absolument.
C'était J-Collect, hein, c'était votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous, Fabrice Develay.
Merci beaucoup.
Merci Guillaume Quérault, notre coach. Hein, je rappelle que vous êtes le fondateur du club des entrepreneurs. Sébastien, Marlène, demain, on va parler cosmétiques, mais pas n'importe lesquels, ceux qui font du bien à la peau et à la planète. Et là aussi, des acteurs français se bougent.
Ah, ça, c'est un sujet pour moi, les cosmétiques, Sébastien, ça
même
vous parle.
Même pour les hommes, bien sûr.
Bah voilà. C'était La France bouge. À demain, Elisabeth Assayag.